France Musique. France Musique, les grands entretiens. Judith Chen.
Je m'appelle Max Emmanuel Cencic. Je suis né en 1976 à Zagreb et je suis contre-ténor.
Volontiers, quand vous étiez jeune, vous étiez rebelle et vous avez retrouvé, enfin sans doute ne l'avez-vous jamais perdu, Max Emmanuel Cencic, mais retrouvé ce côté rebelle, volontiers provocateur aussi, que ce soit dans vos pochettes de disques ou bien dans vos mises en scène. C'est une façon de vous approprier ce répertoire-là.
Et oui, c'est pour créer quelque chose, il faut tenter. Le moment quand vous tentez quelque chose, vous êtes toujours dans une très fine ligne de provocation des codes, parce que si vous n'osez pas de provoquer, vous n'allez jamais arriver à retrouver quelque chose de nouveau. Et aussi, j'aime bien l'idée de la provocation, si cette provocation n'est pas la seule raison pour l'existence de l'art. La provocation, à mon avis, c'est justement la méthode pour arriver à l'art. Mais si on déclare que la provocation, c'est l'art, ça, je trouve un peu banal. C'est pas suffi.
La prise de risque, vous aimez ça? La prise de risque vocale, la prise de risque artistique, c'est un moteur, vous diriez?
Oui, oui. Surtout, si vous réussissez, s'il y a un succès derrière, ça renforce, ça donne un peu plus de courage et l'audacité de dire « il faut continuer à tenter ».
Dans ce monde-là de l'opéra baroque, il y a une question qui est fondamentale, qui est la question du genre.
Dans quel sens ?
Dans le sens de tous les rôles travestis, dans le sens aussi des femmes qui parfois étaient exclues avec ces opéras auxquels vous avez participé, où on pouvait trouver des opéras avec une distribution 100% masculine. C'est pas tout à fait banal.
Oui, c'est un peu hors commun. C'est justement parce que à Rome, dans l'état des papes, il y avait une prohibition pour les femmes de se produire à la scène. Donc, ce qui m'a fasciné plutôt, c'est l'idée qu'il y avait cette tradition de théâtre ou l'opéra travesti en Europe, en même temps comme en Asie, pour exemple, le théâtre du Kabuki ou l'opéra chinois. Donc, je me suis dit, tiens, c'est vraiment fascinant comme l'humanité fonctionne, qu'on partage un peu plus près les mêmes idées, même s'il n'en a pas des vols, ni des transports pour dire ah bah hier j'étais à Beijing, j'assistais à cette opéra magnifique chantée que par des hommes et il faut qu'on fasse ça aussi à Rome. Ça n'existait pas. Voilà. En même temps, l'opéra italien aussi est une forme d'art dans lequel le genre a priori n'existait pas. Donc si un homme était un primo uomo, un héros dans un opéra avec une voix de femme, bah, il n'avait pas cette définition de dire, bah, tiens, un homme, ça doit être un ténor ou un basse ou un baryton, mais c'était plutôt cette voix très aiguë, féminin. Et donc, quand les femmes se déguisaient en hommes, c'était par des raisons très banales. Pour exemple, ils n'avaient pas suffisamment de castrats qu'ils pouvaient chanter dans tel ou tel deuxième, troisième, quatrième rôle. Ou soit, ils n'avaient pas suffisamment d'argent de payer un star de chanter. J'ai commencé à chanter comme contre-ténor. Par exemple, que je chante Tancredi ou Rossini, les gens, surtout en Italie, me disaient « Ah non, on ne peut pas chanter Tancredi. Non, ça c'est écrit pour une mezzo-soprano féminin. Un contre-ténor ne peut pas le chanter. » Et là, je me suis dit « Oui, mais bon, c'est quoi ça, ne peut pas chanter? Pourquoi ne peut pas chanter? S'il chante bien, pourquoi pas ?» Donc, je me suis un peu révolté contre cet traditionnalisme italien dans l'opéra, qui est devenu, à mon avis, trop rigide, trop poussiéreux. Mais ce n'est pas la tradition italienne. Quand je regarde ce qui s'est passé dans le XVIIe et XVIIIe siècle, voilà, ça c'est un monde complètement différent. Là, il n'y a pas de nationalisme, il n'y a pas de genre, il n'y a pas des choses où des choses sont imposées à quelqu'un, où ils te disent « Ah non, il faut que ça soit une femme, il faut que ça soit un homme, il faut que ça soit, je ne sais pas, une Italienne ou Italien qui chante ça et pas un Allemand qui chante italien. » Alors tu te dis « Mais c'est quoi cette bêtise ?» Alors, c'est cette universalité de l'art que je cherche. Je cherche de briser les frontières, de briser les préjugements et cette idée de genre, de nationalité, de religion, je ne sais pas quoi. Tout ce qui compte à la fin, c'est l'art et la excellence et cette ouverture de l'esprit qui était marquée dans les années 17e, 18e siècle. C'est ça qui a permis à l'humanité d'avoir le temps de lumière. Voltaire, tout ça était le résultat de cette ouverture d'esprit, de cette volonté d'être curieux et de ne se enfermer pas dans une idée poussiéreuse et genre, voilà, ça se fait pas ou ça se fait, non? Donc j'ai osé, oui, j'ai osé de dire, il faut trouver une maison d'opéra qui sera d'accord à mettre sur scène ce projet de folie avec un cast des chanteurs que masculins.
Sant'Alessio.
Non.
Artaserse.
Oui. Ben, Sant'Alessio, c'était déjà une première, comment je peux dire, inspiration qui venait de la part de William Christie, qui était vraiment extraordinaire. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de continuer avec cette idée. Mm. Mais je voulais vraiment rappeler le monde d'art que dans cette idée de l'opéra baroque, il y a plus que Jules César et le couronnement de Poppée. Certainement des chefs d'œuvre, je ne veux pas le nier, mais à mon avis, le voyage là, elle nous ramène beaucoup plus loin que ces deux opéras.
France Musique, les grands entretiens de Max-Emmanuel Tchentchik.
Il y a peu de temps, à votre place, il y avait Dominique Wyss, que vous connaissez. Et on parlait de rôle travesti, qu'il le chante beaucoup. Et c'était intéressant, je trouvais, sa manière de voir comment lui, en tout cas, incarne les rôles féminins quand il les incarne. Et j'aurais aimé savoir quelle était, vous, votre vision.
À l'opéra, au début, la psychologie, a priori, n'existait pas à ce temps-là. Freud n'existait pas. Donc, on ne savait pas quoi c'est la psychologie. Mais l'idée de l'identité de ce qui est masculin, féminin, a priori, je pense qu'eux, ils ont compris que notre être, finalement, est un être très flou. Qu'il y a des femmes qui sont un peu plus masculins ou un peu plus féminins, et qu'il y a des hommes aussi qui sont moins masculins ou plus féminins. Donc, il y a des palettes. Et quand on est acteur, on est amant, on est tueur en série, on est quelqu'un horrible, on est quelqu'un du gentil, on prend beaucoup de différents rôles. Donc, pour moi, jouer une femme, c'est rien d'autre qu'un des beaucoup de différents rôles. Maintenant, je joue l'ange gardien. Je ne sais pas, c'est quoi l'ange? Comment on peut jouer un ange? J'ai jamais rencontré un ange dans ma vie. Donc, vous voyez, vous pourriez peut-être jouer un ange qui est peut-être un peu plus, je ne sais pas, féminin, peut-être un peu plus nu, ou quelqu'un qui est très masculin, ou un ange qui est plutôt très, voilà, hyper macho, comme les anges qu'on en voit aujourd'hui dans les films de Hollywood, avec des anges très musclés, voilà, machin, c'est pas des chérubes, les petites enfants un peu plus, avec le petit bidon, comme on les voit dans les églises. Non, c'est plutôt le type musclé. Donc, c'est quoi l'ange? Non? C'est ouvert à l'interprétation, finalement. À la base, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain est complexe. Et dans cette complexité, il y a plein de différentes variations. C'est ça qui est important à comprendre.
C'est parce que vous allez aussi passer du temps dans des bibliothèques, cette façon-là de chercher. Ça,
ah non,
c'est...
je
non,
suis pas
vous
du
êtes
tout.
Pas
je...
du tout comme ça. Parce que vous nous dites que vous
non,
avez
suis...
des.
Non, je suis pas du tout le souris chercheur dans la bibliothèque. Non, non, c'est pas moi. Non, j'ai mes petites souris, les gens qui vraiment sachent ce qui est bien, qui je consulte de temps en temps. Mais moi, personnellement, je n'ai pas le temps de faire ça, ce n'est pas mon boulot. Moi, je suis plutôt un producteur. Je prends le matériel, je regarde, je vois qu'est-ce que sont les possibilités et je le produise.
Ça, cette maison de production, Parnassus Art Production, c'est une maison que vous avez fondée assez tôt en fait, assez jeune.
J'ai fondé ça fait 20 ans.
Oui.
Donc j'avais 20 ans.
Vous nous disiez quand vous étiez au début de cette carrière de contre-ténor, vous aviez envie d'être votre propre maître, de pouvoir avoir l'initiative également. Donc fonder cette maison de production, c'est une manière de dire on n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Moi, j'étais très inspiré par Gérard Lenne. J'ai beaucoup aimé ses enregistrements des cantates italiennes qu'il a fait. Ça m'a énormément plu et je me suis dit tiens, ça c'est quelque chose du bien parce que c'est quelqu'un qui fait cette découverte de Scarlatti, de Galuppi, vraiment des pièces magnifiques. Et je me suis dit tiens, ça c'est super parce que je pourrais aussi faire des découvertes comme ça et travailler avec un petit ensemble de 6 ou 10 musiciens et partir un peu en tournée. Et voilà, et c'est tout. J'ai jamais eu l'idée d'aller à l'opéra ou de faire des grandes choses. C'était plutôt l'idée de travailler mes petits projets et voilà. Et donc en 2001, j'ai fait sortir un enregistrement de Domenico Scarlatti, des cantates. Et cet enregistrement a commencé de se vendre énormément bien. D'un coup, j'avais Christophe Rousset qui m'appelait. Il voulait que je vienne chanter à Toulouse. Au couronnement de Popé notamment, comme au tournée. Comme ça, ma carrière a commencé à se évoluer plus en plus. Mais j'ai continué de faire les cantates de Vivaldi, le cantate de Caldara, aussi un deuxième Domenico Scarlatti album. Et d'un coup, je me suis dit, si je fais tellement beaucoup des choses, des cantates, je pourrais faire aussi des opéras. Parce que c'est, voilà, 10 musiciens, là, tu rajoutes 15 et 4 chanteurs plus, et c'est déjà l'opéra baroque. Donc, je me suis dit, pourquoi pas oser? Donc, 9 ans après, Faramondo de Handel était ma première grande production de l'opéra que j'ai fait.
C'est marrant, je me disais, quand je pensais à vous, Max-Emmanuel Cencik, à cette façon d'avoir à la fois le chant, la production, le festival, d'embrasser comme ça un peu la carrière par tous ces atours. Je pensais à Cecilia Bartoli, qui a ce même genre de rapport à la vie d'artiste. Je me demandais si c'était quelqu'un avec qui vous communiquiez ou si...
Oui, on s'entend très bien. Elle m'a invité plusieurs fois à Salzbourg. Je l'invite aussi à Bayreuth, donc j'espère qu'elle sera aussi bientôt chez nous. J'ai fait aussi des productions pour elle. Et elle était aussi une grande inspiration parce que c'était aussi un de ces artistes qui disait « Je me retire de la grande scène, je chante... » Ça m'intéresse pas à chanter à Met ou à Covent Garden ou je sais pas où. Je fais Gluck, Vivaldi, Ariane Tiquet, machin, voilà, et je fais des concerts. Elle a son propre festival à Salzbourg. Donc c'est aussi un artiste modèle pour moi parce que ça me renforce à dire c'est bien qu'il y a des artistes qui osent d'être indépendants. Et de créer quelque chose du bien et divers. parce que ça ouvre notre scène théâtrale, opératique, à des possibilités qui, normalement, n'auraient jamais existé avant, comme ça, dans cette forme.
À partir du moment où vous êtes entré dans la carrière que vous avez choisie, quand vous êtes dit, cette fois-ci, c'est moi qui choisis d'être chanteur, c'est plus par nécessité ou par habitude ou je ne sais quoi, et que vous avez monté votre maison de production, vous avez été évidemment fier de choses que vous avez faites. Est-ce que vos parents ont été témoins de vos succès?
Mes parents ont été, oui, témoins de cet développement. Ma mère était au début très involvée dans ma carrière et après, de moins en moins. Mon père n'était jamais trop involvé dans ma carrière. Un petit peu, mais pas toujours, vraiment beaucoup. Et avec mon père, j'avais toujours une relation un peu difficile. Donc, c'était plutôt quelqu'un qui avait un côté jaloux de ce que je faisais. Et ça m'a coûté beaucoup de temps et d'énergie d'accepter d'avoir un parent un peu jaloux de moi, parce que psychologiquement, on aimerait d'avoir un parent fier. Et je pense que mon père, il était fier d'un coup, mais il était aussi un peu amer. Et donc, oui, c'était un peu comme ça.
Et votre mère, elle était fière?
Oui, ma mère, elle était toujours très fière de ce que je faisais. Et elle a toujours très soutenu mon travail, même si elle n'était pas toujours capable de suivre tout. Parce que chanter et l'art, c'est une chose, et faire la carrière est une chose beaucoup plus complexe. Elles dépendent des choses qui n'ont parfois rien à voir avec l'art ou même la capacité ou la qualité d'un artiste. Et il y a plein des règles qui ne sont pas évidentes. Et donc, ma mère n'a jamais pu m'aider de me donner un bon conseil sur ce que je dois dire ou pas dire. C'est pour ça que j'avais plein de bêtises au début de ma carrière en disant des choses à des gens que j'aurais pas jamais dû dire. Et ça gâchit pas mal des choses pour moi. Et maintenant, je suis devenue un peu plus sage.
Max Emmanuel Cencik, pyrotechnique ici avec l'ensemble Harmonia Athéna, dirigé par Georges Petrou, dans la musique de Johann Adolf Hasse, pour clore le 4e épisode de ces grands entretiens avec le contre-ténor autrichien. Équipe de réalisation Gilles Blanchard, Jason Taous, Philippe Mercher et Flora Sternadel. Suite et fin de ce portrait demain à la même heure. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.